Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Camille Balsa. J'avais envie de faire chanteuse d'opéra. Bienvenue dans cet épisode, nous allons parler des relations entre le bien-être de votre santé sexuelle et le plancher pelvien. La santé de notre plancher pelvien, aka périnée, mais vous allez voir, il y a bien plus de nuances que ça et mon invité va le rappeler. Mais si vous êtes un humain, une humaine, vous avez un périnée, un plancher pelvien. Et donc ça va être intéressant de s'y pencher un petit peu plus parce qu'on n'est pas trop familière avec cette partie du corps. Et pourtant, elle est essentielle d'être en bonne santé. C'est essentiel que cette zone-là soit en bonne santé, soit entre guillemets compétente pour votre santé de manière générale et votre santé sexuelle. Et vous allez voir avec mon invité Andrea Jimazan, qui est enseignante APA, activité physique adaptée et intervenante en santé sexuelle. Elle accompagne dans la prévention et l'accompagnement des troubles abdominaux pelviens. Elle va nous expliquer tout, plein de trucs super intéressants. Déjà, elle va nous expliquer ce qu'est un plancher pelvien. Comment savoir si on a un plancher pelvien en bonne santé et surtout de quelle manière ça peut influencer la sexualité quand il n'est pas en bonne santé, que ce soit pour les pénis, les personnes à vulve et les personnes intersexes. Je lui poserai aussi deux questions qui reviennent très souvent en consultation. Est-ce que si j'ai des fuites urinaires en postpartum, c'est normal? Et quand j'ai des rapports sexuels, est-ce que c'est normal d'avoir des pets vaginaux? Elle va nous dire tout ça. On parlera évidemment de l'importance du plancher pelvien dans l'éjaculation précoce, un message important, même plusieurs messages importants qu'elle souhaite transmettre sur et pour les personnes intersexes. Et puis, on a tout un pan où on abordera la manière de prendre sa place en consultation en tant que patiente, patient. C'est un épisode passionnant, je ne vais pas vous mentir. Andrea, je la connais depuis un petit moment et je trouve que sa manière d'expliquer, d'informer et de nous sensibiliser à ce sujet-là est très bien fait. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Andrea, bienvenue sur Camille parle sexe.
Merci beaucoup d'avoir invité. Je suis vraiment ravie de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. On va parler de plein de sujets fort intéressants.
Ouais, et on est super contents de se voir, de s'entendre. On a le grand sourire parce que il faut dire que pendant la période confinement, au début même d'Instagram, quand on se lançait, on avait fait des vidéos, des lives ensemble, on avait pas mal échangé. Et puis maintenant, voilà, tu es au Canada et tu fais pas mal de choses super intéressantes. Et donc, tu vas nous parler de tout ça aussi. Pour commencer, du coup, qu'est-ce qu'un plancher pelvien? Qu'est-ce qu'un périnée? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça?
Alors, le plancher pelvien, c'est un peu mon petit combat depuis ces dernières années en tant qu'enseignante en activité physique adaptée. Alors, le plancher pelvien, c'est très simple. Il faut voir ça comme un ensemble de muscles, de ligaments et de fascia. Donc, c'est un ensemble de tissus qui va se trouver au niveau du pubis, qui va s'attacher sur vos ischions et qui va finir au niveau du coccyx. Ça fait comme un espèce de losange, en fait, que vous allez avoir au niveau du petit bassin et qui va venir le fermer. Donc, tous ces ensembles de muscles, de ligaments et fascias, ils vont fonctionner ensemble. Et souvent, on parle du périnée, parce qu'en fait, le périnée, c'est la première partie superficielle du plancher pelvien. C'est qu'on peut voir à peu près à l'œil nu. Mais on va plus parler du plancher pelvien en soi parce que c'est un ensemble.
Super intéressant, et c'est bien, donc c'est une nuance quoi, entre le plancher pelvien, en fait le périnée fait partie du plancher pelvien, et donc si on veut vraiment aborder toute cette zone, et pour être précis, du coup c'est vraiment le plancher pelvien. Et du coup ce plancher pelvien, quelle est sa fonction? Pourquoi c'est important d'avoir un plancher pelvien en bonne santé, et d'ailleurs qu'on soit un homme ou une femme ou une personne intersexe?
En fait, ce qui est super intéressant avec le plancher pelvien, c'est qu'il va avoir différentes fonctions. Souvent, on parle de la fonction de la continence, donc on va parler souvent de la continence urinaire, mais il y a aussi la continence fécale. La continence fécale, ça peut très bien être retenir des selles, comme avoir la capacité de retenir un gaz. Souvent, on va parler de la continence urinaire et fécale. On va parler aussi du fait que le plancher pelvien aide à soutenir les organes, donc vous avez souvent, enfin, t'as sûrement entendu parler de tout ce qui était prolapsus, descente d'organes. Mmh. Donc là, c'est quand on a un plancher pelvien qui n'est plus assez compétent, qui n'arrive pas à retenir les organes et les organes descendent un petit peu. Donc ça a vraiment une fonction de maintien. On a aussi une bonne fonction au niveau de la santé sexuelle. Donc ça, c'est super, et les personnes à pénis et les personnes à vulve et les personnes intersexes ne le savent pas forcément, mais il y a réellement une fonction qui va permettre d'avoir plus de plaisir, de développer une belle sexualité autour de ce plancher pelvien et autour des orgasmes, du plaisir, de tout ça. Il faut savoir une petite chose que je rajoute, c'est que le plancher pelvien, il ne fonctionne pas tout seul. C'est que le plancher pelvien, il fonctionne aussi avec la respiration. Et ça, c'est super important aussi dans la sexualité. C'est qu'il va être connecté avec le diaphragme. Et quand vous inspirez et quand vous expirez, le plancher pelvien, il va avoir un mouvement qui va être lié réflexe. Il va se contracter, il va se relâcher automatiquement. Et ce qui va être super intéressant, c'est de pas seulement travailler du plancher pelvien, mais parler aussi de l'ensemble de la structure qu'on va appeler le core. C'est C-O-R-E. C'est pas le corps, qu'on a
c'est O-R-P-S, les jours. Le corps humain, mais là le corps, les abdos quoi. Enfin, c'est ça. Cette abréviation.
C'est ça, c'est tout le bloc. En fait, il faut voir ça comme un grand caisson qu'on a du diaphragme jusqu'à notre plancher pelvien et qui va venir fonctionner ensemble pour justement qu'on ait une belle santé, qu'on ait une belle continence, qu'on ait un beau soutien des organes et qu'on ait une belle sexualité.
Et que c'est pas forcément esthétique, c'est-à-dire d'être tonique, ferme. Et d'ailleurs, tu vas nous dire hein, vraiment juste après qu'est-ce qu'un plancher pelvien compétent en bonne santé. Mais c'est pas forcément là, on parle pas d'esthétisme, on parle vraiment de fonction, de bien-être dans son corps, dans son intimité aussi. Et quand on parle du corps, tu nous as parlé du maintien, mais aussi ça joue aussi sur la stabilité du corps, hein, parce que et là du corps, c'est O-R-P-S. Il faut du corps, c'est O-R-E pour la stabilité du corps, c'est O-R-P-S. Mais du coup, comment on sait si on a un périnée, un plancher pelvien? D'ailleurs, là maintenant, je ne sais plus ce que je dois dire, si c'est plancher pelvien ou périnée, en bonne santé.
Si on a un plancher pelvien, du coup, qui a une petite dysfonction, ça va être très simple. Ça peut être des petites fuites urinaires que vous allez avoir quand vous toussez, quand vous riez, quand vous faites un effort, par exemple, quand vous courez, quand vous marchez. Il peut y avoir aussi des gaz qui s'échappent. Souvent, on peut voir des personnes qui, par exemple, quand elles font leur course, soulèvent leur sac de course et il y a un gaz qui s'échappe. Ça, faut savoir que c'est pas normal. Souvent, les personnes soit en rigolent, soit sont super gênées. Mais dans tous les cas, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à venir travailler dans la zone pelvienne. Ouais. Ensuite, les prolapsus. Vas-y, Camille.
Avant ça, parce qu'il y a souvent aussi, il y a deux questions qui m'est venue. Il y a la première où souvent, bah là, pareil, les femmes en postpartum qui vont dire « Ah, mais moi, voilà, j'ai des fuites urinaires, ah, mais c'est normal, j'ai un enfant de 2 ans, j'ai accouché, enfin, c'est juste la norme et il n'y a rien à faire. » Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là?
Alors, avoir une fuite urinaire, même si c'est que quelques gouttes, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent, il ne faut pas rester avec ça, il faut pas se dire « Ah bah je viens d'accoucher et du coup c'est normal que mon corps me paye » parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là en mode « c'est pas grave, à côté de ça il y a beaucoup d'autres choses que je dois faire, j'ai pas le temps de prendre soin de mon plancher pelvien » et c'est une réalité, les femmes n'ont pas le temps en fait. C'est une réelle problématique et là je parle à toutes les kinésithérapeutes, sages-femmes qui existent dans le monde. Faites en sorte que votre consultation soit possible avec un enfant, c'est-à-dire que on voit que c'est quelque chose qui est agréable pour vous d'accueillir aussi un bébé en consultation. Alors je sais que c'est pas forcément facile, mais c'est aux praticiens de s'adapter. Et si la maman n'a pas forcément un service de garde, une nounou, la maman, le père ou la mère qui est présente ou présent pour venir garder l'enfant, et ben on se retrouve vite bloqué et puis on dit je le fais pas quoi. Et faut vraiment prendre ce temps-là parce que même si vous avez l'impression que tout va bien suite à l'accouchement, des fois il peut y avoir des retentissements qui sont 6 mois, 7 mois, 1 an plus tard. Alors, il y a toujours des solutions, c'est toujours possible de refaire la rééducation après et vous n'allez pas avoir de problématiques. Mais par contre, plus tôt vous le faites et mieux c'est. Et c'est surtout, vous pouvez le commencer dès la période enceinte, dès la période prénatale, vous pouvez commencer à faire un bilan au niveau de votre plancher pelvien, savoir comment le contracter, savoir comment le relâcher, le connecter avec la respiration.
Et quand ça aidera pour l'accouchement.
Exactement, ça aide énormément pour l'accouchement et en plus ça aide pour le retour de couche parce que tout le temps que vous avez passé à connaître votre corps avant, et ben forcément ça va vous gagner du temps sur après.
C'est utile, surtout qu'après on peut avoir la tête dans le brouillard, comme tu dis, moins le temps, c'est vraiment important que les kinés, moi j'ai de la chance, elle acceptait évidemment, il y avait tout de quoi faire pour amener bébé, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même détente corporelle quand on est seul ou quand on a bébé en même temps en arrière-plan, mais c'est toujours mieux que rien, donc c'est bien cet appel. Et une autre chose qui me venait, une question, GDP vaginaux, pendant les rapports intimes, avec pénétration, est-ce que c'est parce que je ne suis pas tonique du vagin?
Alors, ça, c'est super intéressant parce que ça arrive à plein de personnes et ça peut arriver à tout le monde. C'est dû au fait que, en fait, les muscles du vagin vont venir se détendre, les muscles du périnée vont venir se détendre et du coup, y a des personnes chez qui ça va créer un pévaginal. Un appel d'air qui va rejeter. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le périnée est incompétent. Par contre, si ça arrive à d'autres moments, c'est-à-dire que si ça arrive en dehors des rapports sexuels, par exemple, si ça arrive quand vous prenez un bain ou quand vous allez à la piscine, que vous vous redressez, vous sortez de l'eau, et puis là, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui coule et vous savez très bien que c'est pas urine, c'est pas quelque chose que vous êtes vous-même en train d'expulser, c'est de l'eau qui est venue et qui repart. Ça peut être dû à une béance vaginale. On appelle ça comme ça, c'est le fait que ce soit un petit peu trop distendu dans la zone vaginale et dans la zone périnéale et que du coup, il n'y ait pas assez de contraction, pas assez de tonicité du plancher pelvien qui fait que on a ces petits problèmes-là et ça peut aussi entraîner ça sur les pets vaginaux. Mais les pets vaginaux, en soi, ça peut arriver à tout le monde, à toutes les étapes de la vie. Et si ça vous arrive, surtout, vous dites pas « Ah, j'ai un problème au niveau de mon plancher pelvien. »
on en rigole et voilà. Sauf si, comme tu disais, il y a des signes sur le côté qui peuvent expliquer, mais sinon, voilà, on en rigole, on dédramatise. Et je t'ai coupé, du coup, mais merci pour ces réponses à ces questions qui viennent souvent. Je t'ai coupé au milieu de ton explication de ce qu'est un plancher pelvien compétent.
Bah oui, je ne sais plus où on en est.
Donc, le plancher pelvien, donc un plancher pelvien compétent, c'est un... Alors pareil, souvent, est-ce que c'est on parle de mobilité, est-ce que c'est la capacité à pouvoir justement se contracter et se relâcher ?
Tout à fait. C'est un très très bon point. Un plancher pelvien compétent, ça va être la capacité à se contracter et à se relâcher de manière réflexe. C'est-à-dire que les personnes, on voit beaucoup de personnes, les physiothérapeutes avec lesquels je travaille ou kinésithérapeutes avec lesquels je travaille, arrêtent pas de me dire, mais ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, je croise que des personnes qui ont un plancher pelvien qui est hypertonique. Donc hypertonique, ça veut dire qu'il est contracté tout le temps. On a une petite supposition sur ça, c'est qu'on voit tellement de gens sur les réseaux ou même sur les vidéos qui disent qu'il faut contracter votre plancher pelvien, que toutes les personnes qui se disent bah tiens je vais retravailler un peu mon plancher pelvien arrête pas de le contracter, de le contracter, de le contracter, ne oui. synchronise pas avec la respiration ni rien, et au final on vient avec beaucoup plus de personnes qui ont un plancher pelvien qui est très 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 tonique voire trop tonique qu'un plancher pelvien qui est fonctionnel, donc qui se contracte et qui se relâche de manière réflexe. Et ce qu'il faut voir, c'est que le plancher pelvien, il faut qu'il soit capable de se contracter, de se relâcher de manière réflexe, et qu'il y ait un peu cet effet de rebond. Que par exemple, quand on éternue, on a l'impression d'avoir, je peux donner l'image d'une petite boule qui rebondit, et ben on éternue, et ben hop, on a la petite balle rebondissante qui fait touc touc. Et ben ça, c'est le même.
Ça se relâche et ça se contracte.
Ça relâche, ça se contracte automatiquement parce que ben, notre plancher pelvien, pouf, il va se dire, oh là, il y a une hyperpression au niveau abdominal, et ben je vais venir, hop, solliciter mon plancher pelvien pour que tout se passe bien. Ça, génial. C'est quand tout va bien et c'est super, quoi.
Et l'hypertonicité, pareil, dans mes réflexions, c'est que souvent aussi, on demande aux femmes d'être toniques, toniques de partout, d'avoir les seins fermes, le ventre ferme, les fesses fermes. Et donc, on est toujours en contraction, presque même des fois, inconsciente, intégrée, intériorisée. Et quelles peuvent être les répercussions, du coup, sur la sexualité ? Parce que c'est important d'en parler aussi quand on a une hypertonicité.
Exactement, ça a une très très bonne répercussion, une très très belle répercussion qui est très mauvaise d'ailleurs pour la sexualité des personnes à vue, des personnes à pénis et des personnes intersexes. Il faut savoir en fait que si on a une hypertonicité au niveau du plancher pelvien, ça peut développer de la dyspareunie, donc qui est de la douleur pendant et après les rapports sexuels. On a de l'anodyspareunie aussi, donc là, c'est au niveau de la zone anale. Ça peut arriver chez personne à vue, chez personne à pénis, chez personne intersexe. On peut avoir aussi tout ce qui est problématique autour du toucher des tissus. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de la pénétration, parce que souvent, les personnes vont penser douleur au rapport sexuel et vont penser les douleurs au rapport pénétratif, sauf que en fait, il peut y avoir tellement une zone qui est tendue que même le toucher au niveau du clitoris, des fois, peut être difficile. Et ça peut être vraiment problématique.
Intéressant. Donc, une sensibilité accrue au moment du toucher avec une hypersensibilité, du coup, ou en tout cas, une sensibilité qui est considérée comme, qui est ressentie comme douloureuse.
Exactement, c'est exactement ça. Pour les personnes à vue, ça va plus être ça. Ça se voit beaucoup chez les personnes aussi atteintes de vaginisme, ça se voit beaucoup chez les personnes atteintes d'endométriose, ça se voit beaucoup chez les personnes atteintes de SOPK. Parce que, comme en fait la zone est douloureuse de base, le plancher pelvien, il va venir se contracter en fait pour pallier à la douleur. Et en fait, c'est des personnes qui subissent clairement cette anticipation à la douleur et qui vont venir contracter plus la zone du plancher pelvien. Et du coup, ça peut provoquer des douleurs à la sensibilité, mais aussi des douleurs à la pénétration. Que ce soit un doigt, un objet, un pénis, quoi que ce soit, la pénétration est douloureuse. Après, il y a différentes formes.
Et différentes formes, évidemment. Et est-ce que, là, en y pensant, tiens, pour les personnes à pénis qui ont une hypertonicité, est-ce qu'il y a une sensibilité, est-ce que tu vois, entends une hypersensibilité, pareil, au toucher, que ce soit au niveau du gland, peut-être même se dire, tiens, est-ce qu'il y a plus d'éjaculation dite précoce pour ces personnes-là ?
Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes à pénis, en fait, le plancher pelvien, il va servir de garrot. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'érection, il y a deux muscles en particulier, c'est le muscle bulbo-spongieux et le muscle ischio-caverneux qui vont venir former un garrot quand il se contracte, donc l'afflux de sang vient dans le pénis. Le pénis se gorge de sang, vient en érection, le plancher pelvien se contracte pour que le sang reste à l'intérieur. Sauf que le problème, c'est que les personnes qui ont un plancher pelvien qui est vraiment hypertonique, il peut y avoir différentes difficultés. Déjà, il peut y avoir des troubles de l'érection, parce qu'on n'y pense pas assez, mais des troubles de l'érection, ça peut être pas seulement un plancher pelvien qui est hypotonique, donc qui n'est pas assez tonique, ça peut être aussi dû à l'hypertonicité du plancher pelvien. Et il y a aussi des troubles de l'éjaculation, qui vont se retrouver dans ces troubles-là. C'est-à-dire que là, il va y avoir un problème d'éjaculation dite précoce. Donc, vous rassurez-vous, les personnes à pénis, l'éjaculation précoce, ça peut arriver à tout moment. C'est si ça perdure dans le temps où là, ça va devenir problématique pour vous. Mais, en fait, le fait d'être trop tonique, de ne pas arriver à relâcher ses muscles du plancher pelvien, forcément, ça va avoir un rôle dans l'éjaculation, dans l'expulsion du sperme, et ça peut arriver à des moments où vous n'avez pas forcément envie que ça arrive, ou ça arrive trop tôt pendant le rapport sexuel. Et du coup, là, on va penser plus à relâcher le plancher pelvien pour que ça ait un impact, en fait, sur l'éjaculation précoce.
Super. Et parenthèse, justement, pour les personnes qui sont intéressées à aller creuser un petit peu plus loin, il y a l'épisode numéro 75 sur l'éjaculation précoce. Je l'ai intitulé « Éjaculation précoce, est-ce vraiment un problème ?» Voilà, comme ça, les gens peuvent aller fouiller, avoir des réflexions là-dessus. Donc, super intéressant. Il y a aussi quelque chose que tu as nommé et tu m'as dit en off que c'est quelque chose d'important pour toi. Tu parles de personnes intersexes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, bah déjà peut-être pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, et puis pourquoi c'est important dans ton travail d'inclure les personnes intersexes?
Ok, merci beaucoup d'ouvrir sur ce sujet. En fait, il faut savoir que les personnes intersexes existent, que les personnes intersexes représentent 1,7% de la population, et encore, c'est des statistiques qu'on a par rapport à des personnes qui se sont déclarées intersexes, mais il faut savoir qu'il y a des personnes, en fait, qui peuvent être intersexes, qui ont été opérées à la naissance, et des fois qui ne le savent peut-être pas. Donc ça peut être intéressant aussi de revoir dans quelques années les chiffres pour voir combien en fait les personnes intersexes sont tags dans notre société, parce que ça se trouve, elles sont beaucoup plus que 1,7%. Pour les personnes intersexes, il faut savoir que c'est des personnes qui sont nées avec des caractères sexuels génitaux, gonadiques ou chromosomiques qui ne correspondent pas à la définition binaire du type masculin et du type féminin. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule personne intersexe, il n'y a pas qu'un seul modèle. Toutes les personnes intersexes peuvent avoir des caractéristiques qui vont être différentes. C'est juste qu'elles ne correspondent pas aux attentes de notre société actuelle.
Elles ne rentrent pas dans la case binaire, quoi. On ne peut pas cocher femme ou homme, et donc ça pose problème dans le sens où ça ne rentre pas dans les cases que la société a définies.
Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, quand on remarque que la personne a soit des gonades, soit des caractères génitaux qui sont ni considérés comme féminins, ni considérés comme masculins, on va venir en fait opérer à la naissance, dans beaucoup de cas. Là, on est en train de lutter au maximum pour que on arrête de faire ça, parce qu'en fait, ça n'a aucune fonction. De santé.
Biologique.
Ça va avoir une photo. Exactement. Ça va avoir juste des fonctions, des fonctions, en fait, qui vont être juste esthétiques. C'est juste sociétal, comme tu dis, c'est juste esthétique et ça n'a aucun rapport avec la santé et tout ça. Et ça peut avoir des retentissements, en fait, sur la sexualité des personnes intersexes par la suite. Que forcément, il va y avoir des tissus cicatriciels, forcément, il va y avoir un impact sur le plancher pelvien. Donc, c'est des personnes qui peuvent avoir un impact sur leur sexualité après et plus tard. Et des fois, ne pas comprendre pourquoi. En fait, ne pas comprendre pourquoi l'érection marche moins bien, ne pas comprendre pourquoi l'éjaculation potentiellement fonctionne moins bien, ne pas comprendre pourquoi il y a des dyspareunies, pourquoi il y a des douleurs. Et ça peut être très intéressant, en fait, de relever et d'en parler. Parce que il faut en fait arriver à se dire qu'on accompagne pas si bien que ça des personnes queer dans le milieu de l'accompagnement de la rééducation du périnée. et qu'il va falloir qu'on se forme et qu'il va falloir qu'on milite un petit peu pour que les personnes intersexes ne soient pas forcément opérées à la naissance, que ça devienne un choix de la part de la personne au bout d'un moment. Il y a un très joli livre qui s'appelle « Le cœur des femmes » que je vous conseille absolument à lire. Il est soit en livre, soit en BD, et ça raconte l'histoire d'une gynécologue, je crois, qui est elle-même intersexe et qui se forme en fait à la gynécologie dans un service. C'est vraiment très très beau et on parle du coup des personnes intersexes dans ce livre et de la manière dont on peut le mieux encadrer les femmes, les personnes qui viennent en fait en consultation gynécologique.
Ah oui, c'est de Martin Winkler. Ah non, parce qu'il y en a un de Martin Winkler et je l'ai confondu, parce que ça me disait quelque chose, Le cœur des femmes, je regarde en même temps, de Martin Winkler, et ça c'est un magnifique ouvrage, mais je pense que c'est pas du tout la même chose du coup, parce qu'il y a la BD dont tu me parlais, Le cœur des femmes, ah mais c'est Aude qui fait, ben non, alors c'est de Martin Winkler.
Ouais, c'est les deux sont du même auteur, c'est juste qu'elle a été interprétée en mode BD. La BD est vraiment belle. La BD est vraiment très belle si vous n'êtes pas trop lecture de bouquins, mais dans tous les cas, le contenu est très bienveillant, très facile à lire et très beau.
Super, merci pour cette référence que je mettrai dans les notes de l'épisode. Donc du coup, pour toi, voilà, tu milites à ce qu'il n'y ait pas d'opération chirurgicale dès la naissance parce que on peut considérer comme des mutilations.
Hein, exactement.
Parce qu'il n'y a pas de raison fonctionnelle ou de santé pour le faire. C'est juste esthétique, sociétal, hein, on va dire plus sociétal. Et tu parlais justement de pouvoir accompagner mieux dans le milieu de la santé, là, de la rééducation périnéale. Qu'est-ce qui est... Alors, c'est peut-être vaste, hein, mais qu'est-ce qui est différent dans l'accompagnement quand c'est des personnes intersexes ou même juste quand on pense santé du plancher pelvien?
Alors, ce qui est super intéressant, c'est que là, on commence à avoir beaucoup de personnes qui n'osent pas, en fait, prendre part à une consultation parce qu'elles ont peur, ces personnes queer, d'être mégenrées, d'être jugées sur leur sexualité, d'être victimes de soit transphobie, soit homophobie, soit beaucoup, beaucoup de maltraitance en fait vis-à-vis du personnel de soins. Et en fait, il faut dire, on n'est pas formé. En fait, les kinésithérapeutes, les sages-femmes, les enseignants en activité physique adaptée ne sont pas formés à bien comprendre tous les enjeux qui se passent chez les personnes queer quand elles viennent consulter pour soit de la rééducation du plancher pelvien, soit de la réadaptation à l'effort avec un enseignant à bas. C'est très, très, très compliqué de franchir la porte déjà du praticien et il y a plein de signes d'alerte qui peuvent en fait avoir un impact énorme chez ces personnes, que ce soit au niveau de la communication, est-ce qu'elle est queer-friendly ou pas, la communication du cabinet ou de la salle de sport, est-ce que les toilettes sont adaptées, est-ce qu'on va être jugé sur la manière dont on est habillé, dans la manière dont on se présente, est-ce qu'on dit qu'on est une personne, soit une personne intersexe, soit une personne trans, c'est très très difficile et en fait le fait est que même les praticiens de santé, du paramédical et du bien-être à chaque fois sont là genre ah oui bah en même temps c'est difficile mais en fait vous c'est votre travail et en fait dites-vous que la personne toute la journée elle vit des micro-agressions donc formez-vous et accueillez mieux les personnes et forcément elles vont plus venir vous voir par rapport à leurs troubles plus tard. Là, actuellement, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais je ne les vois pas en cabinet. » En fait, oui.
Il faut se poser la question pourquoi.
Exactement. Au lieu de poser la question de ces personnes-là n'ont pas de problématique, posons-nous la question de pourquoi elles ne viennent pas nous voir. Je pense qu'il y a une grosse partie qui est due au fait qu'elles ont peur. Elles ont très, très peur de sortir de là et de subir des micro-agressions ou alors de devoir éduquer les praticiens. Et des fois, en fait, on n'a juste pas envie d'éduquer.
Rajoute une charge supplémentaire, d'autant plus quand il y a déjà peut-être des problématiques sexuelles, il y a souvent de la honte, de la souffrance, donc c'est déjà dur. Te dire qu'il y aura un examen des fois gynécologique, ça peut être dur. Et puis en plus, l'ajout d'être jugé, d'être méprisé, et d'être mégenré, et d'être pas être comprise et compris, et de ressortir de là en fait mal. Et donc, on voit que ça a aussi des répercussions sur la santé parce que du coup, ça empêche ces personnes-là d'avoir un suivi, un soin et de prendre soin de leur santé.
Et tout à fait. Et tu as dit quelque chose qui était très... Je relève ce que tu as dit parce que c'est super pertinent. Il faut savoir qu'en rééducation du plancher pelvien ou en réadaptation à l'effort, vous n'êtes pas obligé d'avoir un toucher interne. C'est pas une obligation. Mmh. Et si c'est quelque chose qui vous fait peur, dites-vous que ce n'est pas obligatoire. Donc, allez-y, allez consulter, allez voir, allez faire un bilan. Si vous croisez la route d'un praticien qui vous dit « Ah bah oui, mais moi, comment je vais faire si je peux pas aller en interne ?» Et ben vous changez de praticien, vous n'êtes pas marié avec et vous allez avoir des praticiens qui vont vous permettre en fait d'avoir une consultation, un bilan en fait qui est pas seulement périnéal, parce que là, si vous avez juste quelqu'un qui vous fait un toucher vaginal ou un toucher rectal et qui dit « Ok, c'est bon », c'est que là, il y a un gros problème. Il y a plein d'autres choses à voir. Il y a la posture, il y a les abdos, il y a la respiration, il y a le placement de votre corps dans l'espace, il y a l'équilibre, il y a la force de votre dos, la force de votre transverse, et il y a aussi les fonctions de votre plancher pelvien. Donc, il y a plein de moyens de voir si ça fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, ne stressez pas, allez consulter. Respirez beaucoup avant d'y aller, ça va très 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 bien se passer si vous tombez sur un praticien qui est bienveillant, mais ne vous stressez pas avant d'y aller parce que ça va générer trop de pression, trop de choses comme ça. Vous allez avoir des praticiens qui sont compétents. J'espère. Ouais.
Mais j'espère aussi, mais on sait aussi que dans la réalité, c'est un parcours du combattant, de combattante, et que c'est pas toujours évident. Et là, pour bien comprendre, je sais pas si c'est exactement ça, mais du coup, est-ce qu'on peut faire un bilan, l'état de santé du plancher pelvien, sans forcément passer en interne, mais avec tous les signaux que tu nous as indiqués.
Ah mais oui, mais totalement, on peut totalement le faire. Après, ouais, moi c'est un peu particulier parce qu'en fait j'ai été confrontée à cette problématique-là parce que moi je suis enseignante en activité physique adaptée, je suis pas kinésithérapeute, je n'ai pas le droit en fait de faire un bilan en interne. On m'a toujours dit ça va être un problème. Moi je me suis dit non, ça ne va pas en être un parce que j'ai envie de...
Je vais m'adapter.
Exactement, je vais m'adapter, j'ai envie de pouvoir trouver des solutions pour accompagner les personnes au mieux et que les personnes se sentent en sécurité. Et le fait justement qu'il n'y ait pas de toucher interne chez ces personnes, eh ben des personnes me vivent beaucoup mieux parce que en fait elles ont moins peur de venir me voir ou me parler de leurs problèmes parce qu'elles se disent ouais, c'est super chouette, elle va pas rentrer dans mon intimité et du coup on va pouvoir vraiment discuter de choses qui concernent mon quotidien, travailler de manière fonctionnelle, que ce soit toute la structure musculaire ou les habitudes de vie, les habitudes quotidiennes. Et pour le coup, ça crée beaucoup moins d'anxiété, en fait, pendant une consultation ou pendant une discussion avec quelqu'un. Ce n'est pas obligatoire. Personne n'a le droit de vous dire, pour que je réussisse ma consultation, mon bilan, il me faut un toucher interne. Vous avez le droit de dire non à tout moment. Et si vous n'êtes pas d'accord avec un geste médical, vous avez le droit de dire non. Et surtout, la personne... se doit de vous prévenir sur tout geste qu'elle va faire sur votre corps. Que ce soit si elle vous touche l'épaule ou que ce soit qu'elle ait un toucher interne, il faut une notion de consentement, il faut qu'elle vous demande votre accord. Donc, vous n'avez pas, dites-vous que, bien sûr, dans la réalité, il y a des praticiens qui peuvent ne pas demander consentement et là, c'est une très grosse erreur. Mais dans la réalité des choses, on se doit de décrire comment va se passer la séance, même bien avant que tout geste soit fait. Pour vous rassurer, pour faire en sorte que vous soyez en pleine confiance.
Et en pleine conscience de ce qui se passe et en pleine confiance aussi. Merci de le rappeler. Je trouve que c'est bien de le rappeler, de le rappeler, de le rappeler, de le dire pour que ça s'intègre vraiment. Parce que je pense qu'on a tellement été conditionné à juste se laisser faire et à penser que ça se passait comme ça et qu'il fallait se taire, qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a besoin de l'entendre et de l'entendre et de l'entendre pour le légitimer. Et se dire et gagner un peu en confiance parce que c'est pas évident non plus hein, quand on fait face à la blouse blanche et de devoir dire non mais là stop ou ça me va pas ou je ne peux pas. Ça demande quand même une sacrée dose de confiance et de savoir.
Exactement, ça demande une sacrée dose de confiance et il y a toujours, comme tu dis, le syndrome un peu de la blouse blanche où tu dis bah de toute façon c'est le praticien de santé, il sait mieux que moi. Et on va plus légitimer la enfin, ce qui va être fait sur notre propre corps. Parce qu'on se dit, bah, forcément, c'est normal, la personne a accès, moi, je ne sais pas. Mais en fait, ça reste votre corps. Dans tous les cas, ça reste votre corps. Et faites enfin, donnez-vous du courage et légitimez le fait que vous avez le droit de prendre votre place dans la consultation et que même si les connaissances que la personne a, vous ne les aurez peut-être pas, mais la connaissance que vous avez de votre corps, ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Et ça doit être écouté, ça doit être entendu et ça doit être respecté. Dans tous les cas, il faut vous dire que... Oui, je tape un peu du poing sur la table.
Je tape du poing, je suis là. Merci.
Non, mais en fait, c'est terrible parce que même dans mon entourage, on en parle souvent des violences gynécologiques, des violences de consultation, que ce soit en rééducation périnéale ou même ailleurs. Et en fait, ça concerne tellement de personnes. Et je me dis, mais maintenant, nous, on commence à... Enfin, j'allais dire, on commence à arriver dans un âge comme si j'avais 40 ans.
À quel âge?
J'ai 26 ans, donc du coup, ouais, mais on arrive à un
certain âge.
Oui, c'est ça, un certain âge. Mais on arrive à un moment à se dire, ok, merde, quoi. Enfin, je vais vraiment m'affirmer, je vais vraiment être dans la capacité de me dire, bah, il y a des choses que je sais que j'ai le droit de faire pour respecter mon corps et que le tout puissant médecin, gynécologue, kinésithérapeute n'a pas le droit de faire sur mon corps parce que ça reste le mien. Et on a le droit, en fait, de légitimer ça et de dire non à tout moment. Et moi, et c'est le message que je transmets, que ce soit aux personnes que je prends en charge ou alors à mes amis, amis eux et amis. Je leur dis, mais dans tous les cas, à tout moment, vous avez le droit de dire non et vous avez le droit de vous barrer. Clairement, n'ayez pas peur, vous avez tous les droits. Et si à un moment vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec vous-même à la fin d'une consultation, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à vous dire, ok, j'en parle parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé, j'ai besoin d'en parler et n'hésitez pas à signaler. Hein. Clairement, moi maintenant je le dis, n'hésitez pas à signaler parce que si ça vous est arrivé à vous, c'est que ça est arrivé à d'autres personnes et ça peut être problématique.
Super, merci. Et c'est vrai ce que tu disais, ces informations-là, parce que dernièrement, une petite de mon entourage, c'était son premier rendez-vous gynécologique, donc pas si petite que ça, mais je la vois encore petite. Et du coup, lui donner ces informations-là vraiment avant qu'elle y aille, quoi. Tu as le droit, enfin voilà, tu n'es pas obligé d'être déshabillé, tu n'es pas obligé d'avoir un examen gynécologique. Si tu es OK pour être déshabillé, bah, sache que tu as le droit de garder le haut quand c'est le bas, et puis quand c'est le bas, le haut, etc. Sache que s'il y a quelque chose où t'es pas à l'aise, t'as le droit de dire non, t'as le droit d'arrêter à tout moment. Encore une fois, pour légitimer, pour donner voilà, le pouvoir de mettre des choses en place aussi. Comme tu disais, prendre sa place en consultation, j'aime bien. C'est prendre sa place et prendre aussi, pas prendre le pouvoir, en tout cas des décisions sur son corps, quoi. Pouvoir donner des décisions vis-à-vis de son corps.
Pour les personnes queer ou pour les personnes qui ont besoin d'avoir des praticiens bienveillants, faut savoir qu'il y a des répertoires qui sont accessibles pour trouver des praticiens qui sont bienveillants, qui respectent l'intimité. Et je vous assure, ça existe. Et quand on croise la route, ça fait du bien.
Du bien.
Moi, ce que je propose, c'est que je pourrais aussi te partager ça pour que tu mettes
dans
ton podcast. Ouais. Je pourrais te donner en fait les répertoires.
Ouais.
Donc, mais il faut
Parce
savoir
que souvent, ça se donne un peu... Pardon, souvent ça se donne sous le coude ou dans les groupes, donc ça se transmet de toute façon. Et donc, autant avoir la formation directement si possible.
Mais tout à fait. En tout cas, faut savoir que des praticiens, ils en existent des millions. Trouvez celui qui vous correspond au maximum et ce sera la plus belle chose qui vous est arrivée quand il respecte votre consentement dans toute sa splendeur. Quoi. Et qui sait rediriger aussi.
Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire, pouvoir rediriger, parce qu'il y a toujours toute une équipe de professionnels pour aider. Moi, je me disais, bah, rediriger, c'est génial, c'est un plus, justement, pour les personnes que j'accompagne, de montrer qu'il y a plein de ressources et que c'est holistique. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres professionnels qui me disaient, bah, non, mais en fait, si je redirige, j'ai l'impression d'être nulle, de ne pas y arriver, que j'ai échoué quelque part. Alors, non, c'est connaître ses limites et qu'on n'est pas superwoman ou superman et on n'est pas la personne qui va sauver l'autre personne dans son entièreté. C'est une richesse de pouvoir être bien entourée.
Exactement, c'est une richesse et ce sera d'autant plus apprécié par la personne que vous avez en prise en charge Parce que faut se dire que elle vient vous voir, elle a des attentes envers vous, et plus on est beaucoup à travailler ensemble pour résoudre ce problème de différentes manières, plus la personne elle va se sentir entourée et elle va pouvoir en fait comprendre ce que vous faites. Que si vous commencez à l'apprendre sur différentes sphères, elle va vous associer à tout et n'importe quoi aussi. Donc, elle va vous parler de toutes les problématiques.
Ça va partir dans tous les sens.
Ça va partir dans tous les sens. Que si vous, elle vous a associé, OK, par exemple, mon kinésithérapeute, il fait ma rééducation fonctionnelle, on va faire des exercices, on va faire des choses comme ça. Je reste ici. Mes problèmes sexo, je vais en parler avec mon sexologue. Que parfois, les kinésithérapeutes ou les sages-femmes, elles se retrouvent à devoir beaucoup traiter les problématiques sexo. Alors, il y a des personnes qui sont formées à ça, des personnes pas du tout. Et faut être capable aussi d'entendre des choses. Faut être capable des fois d'entendre des traumas. Faut être capable d'entendre des histoires très difficiles. Et si on n'est pas formé, on peut les entendre. Des fois, les personnes, elles se sentent à l'aise avec nous pour nous en parler. Et très bien, même les enseignants d'activité physique adaptée, des fois, il y a des personnes qui sont vraiment très, très à l'aise avec nous et qui vont nous parler de leur sexualité. Et on n'est des fois pas formé. Du coup, on se dit, OK, comment ça va se passer? Sauf que on peut dire, OK, mais j'entends, j'ai entendu ce que tu me dis, c'est bravo de l'avoir nommé. Moi, je connais telle personne qui va pouvoir genre vous accompagner pendant ça. Moi, c'est pas ma compétence. Et ça fait pas, comme tu disais, ça fait pas de nous des personnes incompétentes, ça fait de nous des super professionnels qui travaillons ensemble. Et ça, quand on a compris ça, on a tout gagné.
C'est génial. On a tout gagné et puis on peut avancer sereinement aussi. Donc, merci. Ma dernière question pour toi, Andrea, après cette conversation super intéressante, et elle va peut-être être challengeante, mais c'est bien des fois d'être concis et d'avoir un outil, quelque chose que tu apprécies, qui est phare pour toi dans ta pratique pour accompagner les personnes dans justement un bon équilibre, un bien-être sexuel, mais aussi fonctionnel du plancher pelvien. Qu'est-ce que ce serait pour toi?
Mon conseil phare que je veux vraiment vous donner aujourd'hui, c'est d'aller consulter, de ne pas avoir peur. Pas avoir peur d'aller consulter pour quand vous avez un doute, parce que si vous allez consulter le plus tôt possible dans vos troubles, vous allez avoir une meilleure connaissance de votre corps, vous allez apprendre les bons réflexes, vous allez faire un bon bilan qui va vous dire où est-ce qu'il y a dysfonction et ce qu'il y a à travailler. Faut vous dire que ce n'est pas grave, que ça peut arriver à tout âge, que vous ayez entre 0 et 90 ouais. ans, il est jamais trop tard, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé pendant le podcast, mais c'est pas une question d'âge. Il faut sortir ça de la tête, que à tout moment on peut avoir des troubles dans notre sexualité dus à notre plancher pelvien, dus à des problématiques diverses et variées, et que consulter c'est surtout avoir confiance en soi pour se dire « Ok, je peux arriver à résoudre ce trouble-là. On va y arriver ensemble. J'ai besoin de me faire accompagner et j'ai besoin de me faire accompagner correctement. » Pas en regardant tes vidéos, des fois en se disant « Oh, automédication, c'est super !» Et des fois, alors ça peut fonctionner chez certaines personnes, mais chez d'autres personnes, on a besoin d'avoir un bilan qui va être complet, et vous allez réussir à trouver le professionnel de santé et du paramédical et du bien-être qui va réussir à vous accompagner correctement. N'ayez pas peur de parler de vos troubles à des amis qui vont vous conseiller des personnes. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Il faut sortir aussi ce tabou-là de les troubles du plancher pelvien, c'est honteux, c'est faux, ça arrive à beaucoup de gens. Et quand on en parle autour de nous, souvent on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et que les personnes ont traversé des choses aussi et vont pouvoir nous conseiller aussi de par leur expérience. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est oser en parler, que ce soit à votre praticien de santé ou aux personnes autour de vous, oser en parler et oser prendre ces troubles en charge pour une meilleure sexualité, une meilleure continence, un meilleur soutien des organes.
Amen. Osez en parler. Merci beaucoup, Andrea. On peut te retrouver sur ton compte Instagram Pelvic Flow pour des conseils encore plus loin, des choses pratico-pratiques. Et puis, je mettrai du coup dans les notes de l'épisode l'annuaire que tu vas nous envoyer justement pour des praticiens, praticiennes safe, voilà, pour accompagner toute personne.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et puis, on se retrouvera autour d'autres sujets, sûrement, pour d'autres projets. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée pour ce projet. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi.
Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Andrea. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un ou si vous pensez qu'une personne de votre entourage pourrait bénéficier de l'écoute, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous partagez comme ça tout de suite par message cet épisode, même sur vos réseaux sociaux si vous en avez, newsletter, réseaux sociaux, etc. Et si vous voulez donner du baume au cœur, un petit coup de boost, vous m'envoyez un message sur Camille Parle Sexe en me disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode et vous pouvez évidemment laisser des avis, des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie encore et encore d'être là, de me faire confiance, d'apprécier les épisodes, de me faire des retours constructifs. Merci beaucoup. Et en attendant de se revoir, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.